personne qui était en développement, un peu comme le gars à Soirée canadienne qu'on a fait entendre là, dernièrement, là, comme un courage que je sais pas comment ils ont réussi à atteindre aussi jeune, puis à faire des stepettes, puis t'es tout seul. Fait que t'es sûr que les yeux sont tous rivés sur toi.
Et puis sont notés, là.
Ils sont notés, en plus.
Il y a comme trois dudes assis sur un sofa avec un iPad qui leur disent qu'ils sont bons ou qu'ils sont pas bons. Hey, regarde.
Devant tout le monde!
Non, vraiment. Non, mais c'est intense. Puis honnêtement, mon fils était très stressé. Je vous le dis, là, j'étais comme... C'est parce qu'il est... Pour vrai, c'est pas pour le vanter, mais il est comme tellement bon qu'ils l'ont envoyé en compétition, mais il était le plus minus des minuscules.
Wow.
En tout cas, mais bref, il est bien fier de lui.
Mais il est dans l'apprentissage, puis il va être capable de communiquer comme toi, tu peux le faire devant un public sans aucun problème plus tard.
Mais quand j'étais petite, j'étais gênée.
Il n'y a pas de gêne. Son gars, mais en tout cas, il est passionné comme sa mère, ça, c'est sûr.
Ben, c'est ça, mais c'est parce que là, il y a un père et une mère qui sont des modèles de communication. Fait que j'imagine que ça les a aidés, ce que nous autres, on n'a peut-être pas la chance d'avoir.
Je pense que oui, ça peut être... Mais effectivement, le samedi, alors que peut-être que certains sont en pyjama en train de boire un petit café, souvent, j'ai des activités pour mes enfants. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est le même pour beaucoup de parents.
Moi, je me gèle le cul à l'aréna, je peux te le dire. Mm-hmm. Tu sais, les arénas, des fois, en Beauce, là, tu t'assois, il fait plus frais en dedans que dehors, alors que dehors, c'est l'hiver.
Hey, salutations à tous les parents qui suivent leurs enfants dans leur passion, puis qu'ils prendraient leur temps libre peut-être autrement, mais ils s'investissent pour leurs enfants. Bravo!
Antonine Iacarini, comment ça se passe les fins de session à l'Assemblée nationale?
Bon, comment ça se passe sur le terrain, c'est que chaque chef de parti politique fait un point de presse dans lequel il dit là, tout ce qu'il a fait d'extraordinaire. Moi, je vais être bien franche avec vous, je les écoute plus ou moins, parce que c'est les « spins » entre guillemets habituels, puis on apprend généralement pas grand-chose dans tout ça. J'ai plus envie de regarder un peu d'où la session est partie puis où est-ce qu'elle a atterri quand je fais les bilans. Mais l'ambiance à l'Assemblée nationale la dernière journée, outre les points de presse... Là,
c'est des contracts.
Ah, c'est électrique.
Ouais.
Tu sais, déjà au Salon Bleu, qui est le Salon Rouge en ce moment, parce qu'il y a des rénovations dans le Salon Bleu, mais les chefs font leurs vœux de Noël. C'est drôle, il y a beaucoup d'autodérision, des petites pointes qui s'envoient aux autres. Le personnel politique, c'est pas tout le monde qui habite à Québec, qui travaille à l'Assemblée nationale, donc il y a beaucoup de gens qui vont retourner dans leur terre, aller dans les bureaux de comté, dans les bureaux des ministères qui sont à Montréal ou aller dans la circonscription. Donc, il y a vraiment une ambiance plus légère. Tout le monde est brûlé aussi, tout le monde est vraiment fatigué, fait que des fois, c'est même un peu émotif. C'est des parties de Noël, des fois, on se dit nos quatre vérités, un petit verre dans le nez.
Ah ouais?
Un petit peu d'accumulation. Ah, il se passe toujours des affaires. Si vous étiez sur Grande Allée cette semaine, vous auriez sûrement vu quelques députés et personnels politiques se promener entre les bars. Ça brasse la dernière semaine.
Quand on les entend comme ça à l'Assemblée nationale en fin de session, puis qu'on voit les vœux de Noël comme ce matin, entre autres François Legault qui l'année passée avait demandé une boussole cette année, a dit « je vais peut-être avoir une batterie pour commencer l'année en Lyon ». Est-ce qu'on doit le prendre du genre « sont capables de rire de leur fresque » ou on doit le prendre du genre « et qu'on s'est fait remplir puis qu'il savait.
Moi, je pense que ça fait du bien à tout le monde de rire. Moi, je suis quelqu'un pour qui l'humour, ça a énormément d'importance dans ma vie, là, puis même dans mes plus grosses épreuves, puis mes moments les plus bas. Puis j'ai un chum pour ça aussi qui me compte des jokes. Des fois, c'est même vraiment pas approprié dans le moment, mais moi, ça me fait du bien. Puis il y a quelque chose que les gens connaissent moins au Québec, c'est plus connu à Ottawa, c'est le souper de la tribune de la presse. C'est en novembre. Et c'est un souper qui est complètement off the record à Québec. À Ottawa, c'est public. Puis les chefs font des allocutions et c'est très, très auto-dérisoire. Puis moi, j'ai eu la chance... On n'est pas supposé dire ce qui se passe là, mais je vous en parle un peu. J'ai eu la chance d'assister à un souper de la tribune quand j'étais attachée de presse de chef jadis en 2014. Puis François Legault était déjà chef de la CAQ. Et je dois dire que il est drôle. Tu sais, des fois, les gens, ils trouvent qu'il y a un humour un peu de mon oncle.
Des fois,
ça.
C'est louche.
Des fois, mais honnêtement, il a le sens du punch et il a une façon de rire de lui-même puis de rire des membres de son équipe que vraiment, je trouve très drôle.
Marc Tanguay, par exemple, est l'étoile du match là, pour les vœux de Noël.
Il est hilarant, ce gars-là.
Hey! Moi, il est venu ici en plus en studio. Il a donné des shots aux gars.
Ah, il est très drôle.
À ne pas comprendre, puis en même temps, OK, on embarque dans la game, puis on rit, tu sais. Éric Duhem est venu nous donner hier des jeux du 7e ciel. On capotait, on était genre, qu'est-ce qui se passe? Mais l'humour en politique, est-ce que ça sert ou ça peut ne pas servir aux yeux
de
la majorité des gens?
Tu sais, il y a des moments pour ça, mais c'est pas pour rien que les élus font pas des jokes à toutes les mêlée de presse, parce que...
La société est rendue plus fragile qu'elle
était. C'est fragile. Tu peux choquer quelqu'un avec quelque chose que vraiment tu pensais pas que ça allait être choquant. Tu fais une joke sur une allergie, puis il y a quelqu'un qui t'écrit pour te dire « ma fille est allergique, c'est pas drôle ».
Elle est morte.
Bon, mais c'est ça, tu sais. Que...
Quand elle n'était pas visée, tu sais.
Non, non, pas du tout, mais on est dans une société de ressenti. Où
mais la
le
crédibilité.
Des gens. Mais il y a aussi que... Il y a toujours moyen de dire « Ah ouais, vous êtes payé avec des fonds publics, puis il se passe des choses vraiment graves, puis toi, tu fais des jokes. »
Ça serait peut-être notre genre, Yannick, de faire ça, honnêtement.
Oui. Est-ce que on travaille déjà pour la prochaine session? Peut-être pas les politiciens, mais plus le personnel de bureau, les directeurs de cabinet. Est-ce
réponse
que vous travaillez
courte? Ouais. Non.
Non.
OK, là, ils sont pas là pendant tout. Honnêtement, en politique, on travaille beaucoup à la dernière minute, puis ça explique bien des choses.
Ah ouais, ça me surprend.
Ben oui, hein? Puis tu sais, les gens qui pensent, qui croient aux théories du complot, sachez que juste parce que les gens en politique travaillent sur le coin de la table, puis à la dernière minute, ça serait pas possible de monter des complots très élaborés. Là.
Ouais.
Donc non, je pense que là, tout le monde essaie juste de survivre jusqu'à la fin de la session. Par contre, il y a des petites rumeurs de remaniement ministériel à Québec. C'est
alors que Legault n'aime pas du tout ça.
Il déteste ça, puis honnêtement, je trouve vraiment pas que c'est un bon timing de le faire, par exemple, au retour des fêtes, parce que, rappelez-vous, il va y avoir une élection dans Terrebonne, parce que Pierre Fitzgibbon, c'est comme ça que la session avait commencé.
Il est devenu lobbyiste.
Il est devenu...
La chasse aux
faisans. Non, il n'est pas lobbyiste, Yannick. Rigueur. Il travaille dans un, dans... avec des lobbyistes.
Oui, c'est ça.
Il va leur susurrer des mots à l'oreille.
Oui? Tu crois?
Oui.
Il va faire comme s'il était lobbyiste, mais il n'est pas inscrit au registre, donc techniquement, il ne l'est pas.
Il n'est pas lobbyiste. C'est s'il ne fait pas de lobby, puis qu'il appelle
pas... Il est correct.
Pas...
Ouais, non, mais c'est vrai que... C'est... Pierre Fitzgibbon, c'est un modèle d'éthique.
Ben, c'est un gars quand même transparent. Est-ce qu'on peut se dire ça?
Oui, mais au niveau de l'éthique, on reviendra avec toutes les blâmes à l'éthique qu'il y a eu. Là. Je veux dire, c'est comme le premier à l'Assemblée nationale qui en a autant.
Bon, on
c'est
s'entend. Il a battu des petits records là-dessus.
Ben
oui. Ouais, OK, on est d'accord. Cela dit, faire un remaniement en janvier, puis après ça, se péter le nez, okay. Ça apporte dans Terrebonne.
As-tu entendu des rumeurs? Que...
Oui, il y a des rumeurs qui circulent. Des rumeurs comme quoi, dans les cabinets, les ministères, on est comme un peu sur hold, on attend de voir, on part pas trop de nouveaux projets. Oui,
santé,
oui.
Tu peux pas toucher ça, tu le laisses
non.
Là?
Ben oui.
Éducation?
Bon, ça, éducation, ça peut bouger. Puis, tu sais, il y a des ministres qui aiment vraiment leur dossier. Je pense que, mettons, Bernard Drinville, c'en est un. Mathieu Lacombe, c'en est un. Qui aimeraient rester dans leur poste. Puis, il y a des ministres, peut-être, qui aimeraient changer.
Et?
J'adore le petit silence qu'on me laissait parler.
L'éducation, ouais. C'est pas facile, pareil. Hein?
Ben, mais en fait, je veux dire, est-ce qu'il y a les compétences nécessaires, Bernard Drinville, pour être là encore puis changer les choses? T'sais, au niveau des communications, je pense qu'il est capable de bien communiquer le message sans aucun problème. Mais de l'autre côté, visiblement, des fois, il est embêté comme pas possible. Puis il regarde au ciel, il a de l'air un peu tanné.
Ouais, mais l'éducation,
c'est comme s'il envoyait
un
message, sortez-moi d'ici. Là.
Ouais. Mais puis c'est vrai qu'il dégage ça, puis il devrait peut-être dire à sa face s'il aime son dossier, mais je pense qu'il aime vraiment son dossier. Puis la CAQ, on peut leur faire bien des reproches, mais les ministres d'éducation, ça roulait là, aux deux ans, aux ans et demi là, avec
justice,
les libéraux.
À justice, tu touches pas à ça. Jolin Barrette est quand même assez target. Là.
Ouais, oui, par contre, il y a quand même plusieurs cordes à son arc. Si moi, Jolin Barrette, là, on pourrait... mais il fait vraiment un... Je pense que c'est un très bon travail. Il a été souligné comme une des personnalités de l'année par l'actualité récemment parce qu'il fait d'énormes réformes qui passent très bien, qui sont vraiment super bien accueillies.
Beaucoup moins face aux projecteurs aussi depuis les dernières années. On l'a laissé. C'est pas un gars qui est à l'aise avec ça. C'est pas un gars qui les maniait bien, en fait, ces communications-là. Puis en l'ayant enlevé, j'ai l'impression qu'on l'a juste mis aux endroits où il devait être pour travailler.
Oui, il est comme sur son X, finalement.
Politique.
Puis il arrive avec des réformes qu'on n'attendait pas. Il n'est pas à la remorque. Il est vraiment en avant de la parade. Puis on se dit, c'est vrai, c'est un besoin. Puis on n'attend pas que l'opposition commence à nous poser des questions là-dessus ou que les médias embarquent pour faire quelque chose.
Il a refait son image. Puis ça me fascine. Rappelez-vous, là, pendant des années, ça a été le ministre froid, infoman,
ouais,
avec les lasers dans les yeux.
C'est un dossier aussi qui pousse à ça. Là.
C'est rare qu'on voit quelqu'un en politique remonter la pente. De cette manière-là, ben, côté étiquette, je trouve.
Oui, non, c'est ça. Il a vraiment changé son image, puis c'est ce qu'il voulait, hein, être à la justice. Au départ, il s'était fait mettre à l'immigration, puis à la langue, la langue française et laïcité. Et finalement, je pense qu'il est plus à sa place à la justice.
Au transport?
Ça pourrait changer les transports. C'est éreintant comme dossier. Là. Honnêtement, je ne suis pas dans la tête de Geneviève Guilbeault, mais c'est sûr que c'est...
Un blanc mière.
Y a-tu un blanc mière?
À l'Assemblée nationale,
oui. Je l'ai pas vu passer, c'est quoi?
On l'a mis strike-out parce qu'elle n'a pas rendu public
Le rapport!
Les rapports de la SAC.
Ah, pardon. Oui, je l'avais vu passer dans le fond, mais de rendre Geneviève Guilbeault responsable de ça, j'avoue que c'est une société d'État. J'imagine que c'est pas à elle de faire la rédaction des rapports, mais bon.
Mais elle, est-ce que tu considères qu'elle fait un bon travail au transport?
Bien, c'est sûr que pour Geneviève Guilbeault, le fait d'avoir déplogué le troisième lien et replogué le troisième lien avec la même vigueur et le même aplomb, ça a eu un impact là, sur la crédibilité. Tout le monde s'entend pour dire que c'est une bonne communicatrice. Elle a une réputation aussi d'être une... J'ai pas le terme en français, mais une « fixer ». Tu sais, qu'il y a un problème, elle arrive et elle règle le problème, elle fait du ménage. Tout ça, c'est le brand qu'elle essaie de maintenir. Mais cette affaire de déplogage et de replogage au troisième lien, moi, je pense que ça a été très dur pour elle. Puis ça serait pas mauvais. Puis c'est pas nécessairement contre elle, mais d'avoir quelqu'un de nouveau qui arrive pour porter le projet troisième lien, il me semble que ce serait peut-être plus simple.
Il y a quelque chose qu'il y a là que très peu de politiciens ont, c'est le courage d'y aller de l'avant avec ce qu'elle veut mettre en place.
Oui.
Tu sais, des fois, tu peux considérer que ce que tu vas faire, ça va être un suicide politique, mais elle s'assoit quand même puis elle explique le dossier.
Oui, puis
elle... Je trouve ça intéressant.
Elle ose beaucoup. Puis c'est drôle parce que, étant donné qu'on est le 6 décembre, j'étais à un événement qui parlait de femmes et politique ce matin. On a parlé de polytechnique et tout ça, puis l'avancement des femmes. Puis un des éléments qui revient souvent sur les femmes en politique, c'est que les femmes doutent beaucoup, s'effacent beaucoup. Les hommes parlent plus fort, fait qu'on se dit « Ah, ce que je dis, c'est peut-être pas pertinent, tout ça. » Honnêtement, Geneviève Guilbeault, là, on est dans une autre ligue. Là,
mais ça passe pas toujours avec le public, ça passe pas toujours auprès du parti. C'est-tu une histoire de sexe? C'est-tu une histoire de...
Mais on se pose pas les questions quand c'est un homme.
À me l'expliquer. Ouais. Puis, est-ce que les hommes en politique aident vraiment la candidature féminine?
Ah, mon Dieu, quelle question! T'sais. Puis, chez les femmes, c'est que si tu rentres dedans puis que tu as du leadership, ça dérange. Mm-hmm. Mais si tu es douce puis fine, ben ça marche pas non plus. On te voit pas comme un leader. Fait que c'est « damn if you do, damn if you don't ». Moi, je pense que Geneviève Guilbeault, elle a vraiment son style. C'est la première fois qu'il y a un vice-premier ministre, vice-première ministre qui a pris autant de place, je trouve. Il faut le souligner, c'était un rôle qui était souvent un peu honorifique.
Ouais.
Ça aussi, ça fait partie de ses accomplissements.
Est-ce que tu penses que ça a dérangé, ça, qu'elle soit si présente? Puis je veux juste revenir avec ce que Pascal dit. T'sais, des fois, on remet les femmes en cause. Si Pierre Fitzgibbon avait été une fille, on l'aurait remis en cause pareil. C'est que des fois, on a un biais. Là. Ah, ben, tu sais, les gens sont durs avec elle ou avec lui parce que il est de même ou est de même.
Ouais, moi, je suis pas trop fan de, disons, crier à la misogynie puis au mansplaining trop facilement. Je pense qu'il y a des inéquités, là. Tu sais, on a parlé des souliers à talons hauts de Francéline Duranceau dans les médias. On n'a jamais parlé du linge à Pierre Fitzgibbon.
Ouais. Le linge de Pauline Marois dans le temps.
Je ne sais pas si je l'ai envoyé à Pascal, mais il y avait une publication sur Twitter il y a deux jours qui n'avait vraiment pas passé. Tu l'as-tu vu passer? C'était la vice-première ministre qui était face à la FADOC puis elle était habillée d'une manière pour faire face à la FADOC. Puis il y a des gens qui la traitaient de genre de salope. Je pense que j'ai envoyé ça à Audrey en disant « Voyons, comment tu peux être un être humain puis traiter cette femme-là comme ça sur les réseaux sociaux? »
Mais c'est comme ça, hein? Les attaques qu'on entend contre les élus féminines puis les représentants dans les médias aussi, là, pas seulement les personnalités publiques féminines, c'est beaucoup des attaques sur l'apparence physique. Beaucoup des attaques liées à notre sexualité, donc se faire traiter de prostituée, de toutes ces déclinaisons. C'est un peu pour nous ramener à notre place, peut-être, parce que c'est très dégradant. Puis même si tu essaies de faire fi de ces commentaires-là, ça a vraiment tendance à, disons, gâcher ta journée. Tu peux recevoir 95 commentaires. Ben ouais, 95 commentaires positifs, t'en sois un dans ta journée qui est négatif, puis qui dit que t'es laite, puis que t'as l'air d'une mot en S ou de ce que vous voulez. C'est ça va te gâcher
mais
ta journée.
Mais c'était-tu comme ça dans les années 80-90?
Ben, il n'y avait pas de médias sociaux.
Ouais, mais je veux dire, est-ce que les gars dans les tavernes parlaient de même femmes?
Ah, ouais. Tu sais, juste de voir, quand tu parles souvent des générations plus âgées, là, sans vouloir faire de l'âgisme, qui parlent d'une politicienne, ils vont dire « la jolie »,« la Marois ». J'ai jamais entendu quelqu'un dire « le Fitzgibbon ».
La question, c'était, sur le tweet là, en question, là, c'est « trouvez-vous que la vice-première ministre avait l'air d'une traînée ?»
OK, juste pour que les gens à la maison comprennent bien, elle a un pantalon noir qui est ajusté et un chemisier noir avec des petites bottes avec des talons normaux.
Ouais, j'ai pris le screenshot, j'ai envoyé à Audrey, je dis mais quel genre d'humain t'es quand tu fais ce genre d'affaire-là?
Si tu regardes une femme comme ça puis tu dis que ça a l'air d'une traînée, en fait, tu penses que les femmes sont des traînées de façon... Moi, ça en dit plus sur la personne qui l'écrit que sur la personne qui est visée.
Je pense pas que cette personne-là va s'en faire longtemps, mais par contre, il y a des gens qui vont adhérer à ce mouvement-là, puis c'est là où c'est un peu tannant. Là.
Mais une fille qui veut se lancer en politique, elle va voir comment on traite les femmes en politique.
Ça donne pas le goût, là. Exact. Ça donne pas le goût. Tu dis, moi, je peux faire plus d'argent, avoir plus ma famille, mes enfants, mon chum, mes amis, puis pas me faire traiter de traînée. Je pense que quand tu pèses en balance, t'as le goût de faire la différence. On est, tu sais, veux pas, là, les femmes qui se font approcher par les partis politiques, puis je me fais approcher aussi là, pour être candidate, bien, on sent un peu une responsabilité aussi, parce qu'on dit, c'est vrai, il y a pas beaucoup de femmes en politique, tu te sens sous pression, mais quand tu pèses les pour puis les contre, là, je comprends qu'il y en a que ça leur tente pas
d'y aller. Tu veux pas y aller juste pour ça non plus, tu sais. Puis je trouve qu'on a des avantages, puis on a des désavantages. L'avantage qu'on peut voir, mais qui est minoritaire par rapport aux désavantages, c'est que pour certaines femmes, il y a plus d'empathie qui est dégagée de cette personne-là. On sent que c'est une personne peut-être un peu plus humaine dans certaines affaires, moins froide, moins qu'un homme. T'sais, dans certains moments, mais le désavantage qui personnellement, je trouve qu'il est majoritaire là-dedans, c'est que si tu es dans un débat envers un homme ou avec un homme à ce moment-là, automatiquement, tu pars à moins 10. Puis si tu n'es pas mené par soit ton... Là, on parle d'un chef politique, on parle d'un employeur, qu'on parle de médias ou de politique. Si tu n'es pas mené par des gens au-dessus de toi qui vont tenter d'aller tout de suite mettre un équilibre dans la balance, tu es tout le temps à moins 10, à moins 15. C'est tout,
en ça, fait, c'est tellement, que là, l'idée... qu'une bonne partie de la population se fait d'un leader, c'est l'image et le biais qu'on a dans notre tête. Et on a tous des biais inconscients, là, c'est normal. C'est beaucoup plus une image d'un homme. Puis une réflexion qui m'est venue cette semaine, parce que Mélanie Joly est vraiment dans l'eau chaude à Ottawa.
Ouais, avec le New York Post, ça n'a pas aidé. Là.
Exact. Puis elle a eu son portrait. Puis la même semaine, est allée, on a vu un forum auquel elle a participé, qui est animé par M. Kasparov, et dans lequel elle n'a pas très bien performé. Puis les gens commencent à trouver qu'elle devrait s'en aller. Bref, Mélanie Joly, c'en est une qui se fait souvent traiter pas à la hauteur de sa fonction, à mon avis. Je suis pas une fan, hein. Puis tout le monde sait que je suis pas libérale, là. C'est pas un grand secret, là. C'est pas, ça répond pas à mes valeurs, mais je trouve des fois que c'est tellement exagéré. Puis j'avais cette réflexion sur l'apparence physique des femmes. La société demande aux femmes d'être belles, de prendre soin d'elles, d'avoir une belle apparence. On a beaucoup de pression pour y arriver. Puis si t'es pas jolie, tu vas te le faire dire en politique, tu vas avoir des commentaires, tu vas te faire traiter de tous les noms. Mais en même temps, quand tu l'es, quand tu embarques un peu dans le moule, ça te nuit aussi, parce qu'on te sous-estime, on te voit pas comme un leader, on traite de cocotte.
Avec Mélanie Joly, dans le temps, moi, je l'avais, ça, puis j'étais comme, tu sais, elle a-tu été choisie pour son apparence? Puis malgré ses... Je me rappelle, là, c'est peut-être une dizaine d'années, puis je l'avais croisée dans une soirée, puis je m'étais mis à jaser avec, puis c'était dans le coin de la polémique Netflix, là.
Ouais, mais là, puis elle avait un peu couru après, à cette époque-là, parce qu'elle faisait la cassette pas mal dans toutes les entrevues.
Devant moi, une femme extrêmement brillante, avec un CV étoffé, puis je me suis dit, à partir de ce moment-là, crime, j'ai fait partie de ces gens-là qui ont eu le jugement facile du stéréotype, tu sais, puis je me suis dit, je vais apprendre de ça. Là, c'est fini, tu sais, j'espère, parce qu'en plus, je nuis à mes consoeurs, puis même à mes confrères là-dedans.
En 10 secondes, ce qu'il faut que je te laisse partir, est-ce que les policiers prennent de très longues vacances pendant le temps des fêtes?
Honnêtement, oui. L'été, c'est plus dur, hein. Il y a toujours des dossiers en cours, mais pendant le temps des fêtes, je vous dirais que pas mal tout arrête, sauf s'il y a une crise... Là, dans ce temps-là, il faut rentrer au travail.
Puis on reprend ça mi-janvier?
Ouais, les gens retournent quand même au bureau début janvier, mais la session parlementaire va recommencer plutôt début février.
Exact. Merci beaucoup, Antonine Iacarini.
Bye.
Bye-bye. Hey, vous avez soif de musique, on le sait, vous êtes sur les ondes de Boulevard, puis c'est une radio hybride, fait que parler est musical, puis vous avez le loisir de choisir votre chanson rock de l'année dans le cadre de l'ultime combat des tunes qui est présenté par Chaloux. Chaque jour, en semaine, il y a deux chansons différentes qui s'affronteront pour la première place. C'est le moment de donner votre avis sur les nouveautés rock qui tournent depuis janvier et d'aller voter pour votre tune préférée sur le compte d'Instagram de Boulevard. Hier, c'est Linkin Park qui a gagné sans grande surprise. Et aujourd'hui, j'en ai deux nouvelles à vous présenter. Sum 41 Dopamine, qui est mon choix à moi. Et je répète que quand Max Larouche n'est pas là, la tune est meilleure. So fucked up. You did it for the dopamine. And could it be that I'm just not enough? It's so hard to accept that you're gone and that's it. You did it for the dopamine. And it didn't mean anything at all. Donc, si c'est votre chanson préférée de l'année, vous allez sur le compte Instagram de Boulevard. Grâce à vous et à Chaloux, bien, la compilation de vos votes couronnera la toune de l'année sur Boulevard. Et l'autre, c'est laquelle? Je vous la présente à l'instant. C'est Foo Fighters de Glass sur Boulevard. L'ultime!